France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Un journal présenté par Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
Avec plus de 30% de la croissance et de la population mondiale, le nouvel accord commercial en Asie du Sud-Est instaure la plus grande zone de libre-échange de la planète. Un succès pour le multilatéralisme à la chinoise.
Eh bien Tiffaine, c'est déjà un rayon de lumière et d'espoir au milieu des nuages, disait le Premier ministre Li Keqiang à propos de ce premier grand accord de libre-échange depuis 5 ans, ce RCEP, Partenariat Régional Économique Global, qui rassemble les 10 pays de l'ASEAN, la zone économique de l'Asie du Sud-Est, et les 5 grandes économies du Pacifique, tombe à pic en effet pour ces tigres et dragons économiques, alors que pour certains, des années de croissance ont été balayées par la crise sanitaire, la quasi-suppression des droits de douane sur 80% des produits échangés servira à la relance post-Covid. L'accord jouera ainsi le rôle classique de booster de croissance avec un gain de PIB de 0,2% pour les États membres et un ajout d'environ 180 milliards de dollars à la valeur des échanges mondiaux. Alors s'il est excessif d'en conclure qu'il va bouleverser les réalités du commerce mondial, prévient Sébastien Jean dans The Conversation, il n'en reste pas moins le plus grand de l'histoire en termes de surface.
Du beurre dans les épinards donc, mais aussi de l'huile dans les rouages de l'intégration régionale.
Oui, ce sont 50 à 60% du commerce des membres de l'ASEAN qui est déjà intra-régional, souligne Sébastien Jean, et bien plus qu'un accord de libre-échange, écrit cette fois Mathilde Lemoine dans Les Échos, le RCEP qui regroupe pour la première fois les deux premières économies mondiales hors États-Unis, Chine et Japon, va accélérer le développement d'infrastructures, des télécoms et des investissements. C'est même un pas vers l'autonomisation de l'Asie, poursuit Mathilde Lemoine, puisque l'accord privilégie explicitement les entreprises locales plutôt qu'américaine ou européenne et poursuit ainsi la stratégie de régionalisation des chaînes de valeur qui avait déjà permis aux pays ASEAN d'augmenter leur part dans les exportations mondiales. Et la Chine, qui n'a que rejoint le processus initié par l'Indonésie il y a 8 ans, y occupe désormais en effet un rôle central. Elle complète sa gamme d'accords et de dispositifs de financement régionaux. L'Organisation de coopération de Shanghai, la Banque asiatique d'investissement, rappelle Emmanuel Linco et Emmanuel Véron dans The Conversation, et elle trouve aussi un nouveau relais pour ces routes de la soie en direction du sud-est asiatique.
Peut-on alors parler, Xavier, d'un consensus de Pékin ?
Eh bien, l'expression est surtout utilisée en diplomatie, mais elle résumerait bien le fonctionnement de cet accord particulier, à la fois immense en surface, dit Sébastien Jean, et nettement moins ambitieux que ses concurrents, avec une baisse des droits de douane beaucoup moindre, hein, 92% contre 99% généralement, un accord empli de recommandations plutôt que d'obligations formelles, remarque encore le Asia Society Policy Institute. Cette stratégie de trou dans la raquette permet le plus large consensus, tout en excluant certains secteurs stratégiques, l'agriculture, le commerce en ligne, les véhicules électriques, ce dernier à la demande de la Chine. Il faut dire qu'avec presque 2/3 du PIB régional, elle peut facilement organiser ce multilatéralisme est-asiatique. Non seulement Pékin multiplie déjà les zones économiques spéciales sans frais de douane, elles sont plus de 2500, mais elle poursuit aussi depuis 10 ans une stratégie d'influence normative, discrète et efficace, beaucoup plus de normes que l'Union européenne, qui s'applique moins par obligation que par la masse même du marché chinois, à la fois donc puissance gravitationnelle et muraille de Chine déguisée, disait le directeur général de l'AFNOR déjà en 2012, la normalisation est l'outil caché de la stratégie chinoise.
Alors relancer l'Asie ou distancer les États-Unis, l'accord est aussi un coup de semonce pour le multilatéralisme mondial.
Oui, bien sûr, dans le contexte du retrait américain depuis 2017 de la région, tout le monde l'a souligné, la Chine cimente sa position économique et diplomatique, dit Reuters. Les États-Unis en sont exclus et pour la première fois, les grands rivaux régionaux, Japon, Corée du Sud et Chine, sont dans le même accord. Alors, même si ni l'Inde ni Taïwan n'y participent, le RCEP est un signal d'alarme pour les États-Unis, dit encore l'Asia Society Policy Institute. L'Asie, c'est en effet 50% du PIB mondial et Joe Biden a déjà prévu de proposer aux Européens une nouvelle feuille de route pour que les 50% restants ne soient pas abandonnés à la Chine ou à d'autres qui, dit-il, dictent les conclusions parce qu'ils ont le champ libre. Plus encore, ce partenariat est un exemple réussi de régionalisation de l'économie, écrit dans Les Échos Jean-Louis Guigou. Il prépare le monde post-Covid contre le dogme des chaînes de valeur globales, poursuit-il. La proximité est l'atout clé de la baisse des coûts, avec une réactivité de l'offre, une réduction des risques monétaires. Bref, dans ce grand compactage mondial, mondiale des chaînes de valeur par quartier d'orange verticaux, la méga région Afrique-Méditerranée-Europe a pris du retard et la régionalisation serait la solution plutôt que le rapatriement forcé. Une solution donc qui permet de sortir des injonctions nationalistes et une piste pour le futur partenariat stratégique UE-Afrique, cette fameuse Eurafrique dont les discussions débutent cette année.
Merci beaucoup Xavier Martinet.